Bonjour et bienvenue, 11h TU, midi ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
À la une de ce journal, la Serbie qui se prépare à de grandes manifestations de colère contre les autorités. Des dizaines de milliers de manifestants sont attendus à Belgrade, où nous trouvons de Laurent Rouy, notre correspondant, dès le début du journal. Dans le conflit ukrainien, une initiative du gouvernement britannique. Il organise actuellement à Londres un sommet virtuel en présence d'une vingtaine de dirigeants et d'organisations prêts à aider au maintien de la paix en cas de cessez-le-feu. Les États-Unis déclarent l'ambassadeur d'Afrique du Sud à Washington persona non grata. Il l'accuse de haïr l'Amérique de Donald Trump. La France, pourtant très endettée, échappe à une dégradation de sa note par Fitch. L'agence de notation américaine maintient la note souveraine de Paris. La saison de Formule 1 commence avec le Grand Prix d'Australie, avec en pole position demain sur le circuit de Melbourne, le Britannique Lando Norris. En Serbie, la mobilisation contre le pouvoir du président Vučić ne faiblit pas. Plus de 4 mois maintenant après un accident mortel dans une gare, la colère a gagné tout le pays. Les étudiants organisent ce samedi une nouvelle manifestation monstre à Belgrade, parmi d'autres à travers le pays. Laurent Rouy, vous êtes sur place dans la capitale où les manifestants sont en train de converger.
On l'avait presque oublié, mais cette manifestation a été lancée par la mort de 15 personnes, la mort tragique suite à l'effondrement de la gare de Novi Sad le 1er novembre. Et nous sommes en ce moment, pendant les 15 minutes de silence, des milliers de personnes ont soudainement arrêté de faire du bruit, de hurler leur slogan, de siffler dans leur vuvuzela. On n'entend plus rien, le centre de Belgrade est silencieux, alors qu'il y a des milliers de manifestants sur la place de la République, un peu plus loin que je vois sur la place la place des universités et sur le boulevard dirigeants serbes, où une colonne de plusieurs milliers de personnes s'est arrêtée alors qu'elle se dirigeait encore il y a quelques minutes bruyamment vers le centre. Tout le monde est maintenant en position de recueil pour rendre hommage aux 15 victimes de l'effondrement de la gare de Novi Sad due à la corruption qui avait lancé ces manifestations le 1er novembre.
Merci.
Il y a là tout le centre de la Serbie qui est venu à pied hier. Il y a là Belgrade, il y a là Novi Sad, des drapeaux partout, des slogans. Et pourtant, ce silence qui va durer encore quelques minutes avant que la manifestation de colère ne reprenne.
Merci Laurent Rouy en direct de Belgrade. Nouvelle attaque massive de drones la nuit dernière contre la Russie. Les Russes affirment avoir battu 126 drones ukrainiens, principalement dans les régions de Volgograd et de Voronezh dans le sud. Le reste des drones ciblant des zones frontalières. Sur le plan diplomatique, une initiative du Premier ministre britannique Keir Starmer. Il organise depuis une heure à Londres un sommet virtuel en présence de quelques 25 dirigeants et organisations prêts à aider au maintien de la paix en cas de cessez-le-feu. Était annoncé ce matin à Londres, outre l'Ukraine, l'OTAN, la Commission de Bruxelles, Emmanuel Macron pour la France ou bien encore les dirigeants de l'Australie et du Canada, donc pas seulement des Européens, tous réunis pour préciser les contours d'une coalition de pays volontaires. Le Hamas se disait prêt hier à libérer un otage israélo-américain et à remettre les dépouilles de 4 binationaux. Annonce faite dans le cadre des négociations sur la poursuite de l'accord de trêve avec Israël. Mais pour faire pression sur le groupe islamiste, Israël bloque toujours l'aide humanitaire aux portes de l'enclave palestinienne. Les Israéliens ont aussi coupé l'électricité, ce qui rend la vie des Gazaouis toujours plus difficile. Mara Bernasconi de l'ONG Handicap International en Palestine est de retour d'un voyage à Gaza, son témoignage recueilli par Théo Renaudon.
Il y a des ruines partout. En fait, il n'y a rien. Il y a des gens qui marchent dans la rue, qui marchent. Il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Donc les gens doivent subvenir à leurs besoins de base en allant d'un lieu de distribution à un autre. Et quand j'étais là-bas, les distributions avaient encore lieu car le cessez-le-feu venait de commencer et l'aide commençait à augmenter. En décembre 2024, on est passé à 500 camions par jour d'aide humanitaire juste après la signature du cessez-le-feu. Et maintenant, l'aide a de nouveau été bloquée. Il y a des blocus depuis presque 15 jours. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, pas de carburant, pas de nourriture, pas de médicaments. L'aide humanitaire est utilisée comme une monnaie d'échange, sans raison. Quel que soit l'accord de cessez-le-feu, cela ne devrait en aucun cas être lié à l'assistance humanitaire.
not in any way linked to the humanitarian assistance.
L'ambassadeur sud-africain à Washington jugé indésirable aux États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio veut son éviction. Il reproche à Ibrahim Rasoul de haïr les États-Unis de Donald Trump. Dans l'actualité économique, la France, pourtant très endettée, échappe à une dégradation de sa note par Fitch. L'agence de notation américaine a maintenu sa note souveraine à AA-. Fitch observe que malgré le dérapage budgétaire l'an dernier et un déficit public passé à 6% du PIB, eh bien la France conserve, je cite, une économie vaste et diversifiée avec des institutions fortes et efficaces. Comme soulagé, le ministre français de l'économie n'a pas tardé à réagir, se disant déterminé à poursuivre le redressement des finances publiques. En Corée du Sud, la ville de Séoul propose aux retraités de délaisser leur permis de conduire. Elle souhaite réduire le nombre d'accidents de la route causés par les seniors. C'est même chiffré. Les coûts liés à ces accidents sont estimés à près de 260 euros par personne âgée. L'initiative de la capitale connaît un certain succès. Reportage à Séoul de Célio Fioretti.
Moins de seniors au volant, c'est ce qu'espère la capitale sud-coréenne. En échange de l'abandon de son permis de conduire, la mairie de Séoul offre aux plus de 70 ans, un forfait pour les transports en commun. Un programme qui vise à réduire les accidents, comme l'explique Kim Eun-hae, en charge du programme.
Avec le vieillissement de notre population, il y a de plus en plus de seniors au volant. Les accidents de la route impliquant des seniors augmentent chaque année. C'est un vrai problème de société. Depuis le début du programme en 2019, environ 100 000 personnes ont restitué leur permis de conduire.
Un petit succès pour cette initiative qui s'est développée un peu partout dans le pays. Pour cette désormais ancienne automobiliste qui a rendu son permis, il s'agit d'une mesure de bon sens.
J'ai décidé de rendre mon permis de conduire. Mon mari arrive encore à conduire, mais moi j'ai du mal. Alors il valait mieux que j'arrête avant d'avoir un accident.
L'an dernier, un conducteur de 68 ans a perdu le contrôle de son véhicule en centre-ville de Séoul, tuant 9 personnes. Célio Fioretti, Séoul, RFI.
Voiture toujours, la saison 2025 de Formule 1 démarre avec le Grand Prix d'Australie disputé à Melbourne. C'est le Britannique Lando Norris qui partira en pole position demain au volant de sa McLaren à Melbourne. Après avoir décroché le meilleur temps des qualifications, vice-champion du monde l'an dernier, il s'élancera sur le circuit de l'Albert Park devant son coéquipier australien Oscar Piastri et le quadruple tenant du titre, le néerlandais Max Verstappen. En rugby, suite et fin du tournoi des Six Nations. 3 matchs au programme aujourd'hui, notamment France-Écosse ce soir au Stade de France. Enfin, Paris accueille pour la 4e fois le Salon du Livre Africain, un salon devenu incontournable dans le monde littéraire. Quelques 180 auteurs sont au programme, auxquels s'ajoutent des dizaines de maisons d'édition. À l'honneur cette année, les écrivains du Brésil et du Cameroun. Reportage au Salon du Livre Africain d'Olivier Roger.
Bienvenue sur le stand de Akoma maison d'édition jeunesse installée à Yaoundé.
Robert Nkwamou, imprimeur et éditeur, ne boude pas son plaisir de voir la littérature camerounaise mise ainsi à l'honneur au Salon du Livre Africain de Paris. Un événement indispensable pour des éditeurs africains qui peinent souvent à être distribués au-delà de leurs frontières nationales. Isabelle Cassifofana, créatrice de Masaya Édition en Côte d'Ivoire.
C'est vraiment une bonne adresse. Ça nous permet, nous qui ne sommes pas forcément distribués ici, de pouvoir l'instant de ce salon, de rencontrer des professionnels, de rencontrer un public qui est à la recherche aussi de nos ouvrages.
Et ce public, c'est souvent celui des diasporas vivant en France. Éric Monjour, créateur et directeur du salon.
La diaspora africaine en Ile-de-France est très nombreuse et je trouve que l'idée de leur proposer quelque chose qui les concerne très directement a vraiment eu une importance sur le succès du salon dès la première édition.
Bien entendu, le succès du salon tient aussi au foisonnement créatif littéraire actuel. L'Afrique n'a jamais autant lu et écrit qu'en ce début de 21e siècle, de quoi réjouir la conteuse et autrice marocaine Halima Hamdan.
Et longue vie vraiment à ce salon qui mérite d'être un peu plus médiatisé, je dirais.
Voilà, le Salon du Livre Africain se tient jusqu'à demain dimanche dans le quartier du Marais. Très bonne journée sur RFI. Elle continue avec Carrefour du Maghreb. Il est pratiquement 12h10 ici à Paris.